Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à une histoire de l'agriculture capitaliste en France, du XVIIIe siècle à nos jours. Donc il s'agit ici de faire une émission plutôt historique, relativement approfondie, avec pas mal du coup de faits empiriques et d'analyses, et qui vise avant tout à... repenser l'histoire de l'agriculture en France contre une histoire qui serait uniquement celle du perpétuel progrès agricole, du retard français, de la modernisation finalement réussie à partir des années 60, etc. Ou seulement une approche du méchant capitalisme néolibéral, agro-industriel, qui du coup idéalise un petit peu la petite production paysanne marchande. Pour construire donc une espèce de contre-histoire de l'agriculture capitaliste en France, nous sommes avec William de La Critique de la Valeur et qui est un bon connaisseur de ces questions. Donc bonjour William.
Bonjour Armand.
Alors, pourquoi est-ce qu'on t'a invité ? Donc c'est précisément pour penser une autre histoire de l'agriculture en France qui sortirait à la fois du schéma libéral, du perpétuel progrès de l'agriculture française, mais qui serait toujours retardé par rapport à l'Angleterre, toujours en retard par rapport à l'Angleterre, et où finalement ce n'est que dans les années 60 qu'il y a eu un véritable décollage, et avant c'est l'archaïsme, etc., qui a un peu guidé beaucoup l'histoire rurale française jusqu'à nos jours, qu'on critiquera donc au passage. Et puis d'autre part, un autre récit qui, lui, vient plutôt de la gauche, et qu'on voudrait également mettre en question, qui est l'histoire d'une idéalisation de la paysannerie française, jusqu'à nos jours, donc on retrouve notamment avec la Confédération paysanne, qui ferait presque de la paysannerie une sorte de sujet anticapitaliste, non capitaliste, alors qu'en réalité, comme on va essayer de le montrer, la paysannerie a progressivement été intégrée dans le capitalisme agricole, dans le capitalisme français, depuis la Révolution française à peu près, enfin on précisera un peu la chronologie.
Oui, et il faut peut-être préciser que du coup c'est une émission qu'on fait à deux. Toi tu vas plutôt nous parler de la période d'émergence du capitalisme, du 17e, 18e siècle, et puis on va dire aussi l'émergence du capitalisme en France, donc plutôt au courant du 19e après la Révolution française. Et moi, je me concentrerai sur les aspects, on va dire, de la modernisation de l'agriculture, en tout cas celle qui démarre plutôt à la fin de la Grande Dépression, donc plutôt à partir de 1880 jusqu'à nos jours, en passant par la mise en place de la PAC dans les années 60 et l'incidence que ça a eu sur la première, on va dire, très très vaste politique agricole française. Et puis la libéralisation de cette même PAC en 92, voilà. Donc on va essayer de suivre ce fil-là.
Alors peut-être pour préciser en même temps notre objet, parce qu'on a parlé du coup d'agriculture capitaliste, qui présuppose qu'il y a une agriculture non capitaliste. Pour justement distinguer donc ces deux formes d'agriculture, on va faire un petit retour en arrière, un peu hors justement du cadre français, et parler de l'émergence de l'agriculture capitaliste en Angleterre au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui là renvoie à une autre émission qu'on a fait avec William, qui portait sur l'émergence générale du capitalisme en Angleterre à cette période-là. Donc pour, disons, un contexte historique global, on renvoie vraiment à cette émission.
Je fais juste une précision par rapport à ton introduction. On va dire que ce qu'on aimerait faire dans cette émission aussi, c'est, on va dire, faire une critique de certains antagonismes non opérants, on va dire, pour formuler une critique adaptée de l'agriculture capitaliste. Et on pense notamment à la confrontation entre agriculture familiale et agriculture de firme, qui est souvent mise en avant, donc de firmes avec des gros capitaux investis, qui emploient des salariés, voilà, qui sont, on va dire, les formes les plus explicites du capitalisme agricole. Mais on voit bien que la capacité du capitalisme à incorporer l'agriculture familiale dans son processus a été très 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 forte. Et pendant, voilà, dans un processus qui a mis beaucoup de temps et qui, voilà, qui assez... qu'on va essayer de détailler, quoi. Donc c'est, voilà, partir sur ces faux antagonismes et aussi sur le fameux antagonisme dont tu as parlé entre agriculture paysanne et agriculture productiviste. Alors bien entendu, il y a un rapport à l'agriculture, on va dire, un peu plus sain, avec une critique interne de la chimisation de l'agriculture, avec une critique de la standardisation des process de production, etc. Mais par contre, elle a une capacité, malgré tout, d'incorporation dans le capitalisme. Et on verra un peu plus tard aussi comment, en sachant que finalement, c'est des mouvements politiques hétérogènes aussi, où il y avait des luttes à l'intérieur et pas la même définition de ce que devait, enfin, du virage que devait prendre l'agriculture paysanne, etc., quoi. On pourra peut-être pas rentrer dans toutes ces complexités-là.
Oui, c'est important effectivement de préciser ça avant de rentrer dans la partie historique, parce que précisément, on ne veut pas limiter une critique de l'agriculture capitaliste uniquement à une critique de Monsanto, des grandes firmes semencières, de la spéculation sur le foncier et tout ça. Même si évidemment, évidemment c'est des phénomènes qu'on critique et qu'on condamne et dont on aura l'occasion de parler. Mais on veut aussi montrer, de manière relativement bienveillante d'ailleurs, les limites de tout le discours qui vise à promouvoir l'agriculture paysanne. Parce que, précisément, évidemment, l'agriculture paysanne est quelque chose de positif lorsqu'elle s'inscrit dans un cadre véritablement anticapitaliste, comme par exemple les communes d'Aragon en 1936-1937, qu'on a abordées avec Jiménologue. Par contre, c'est très différent pour ce qui est de disons des mesures qui sont préconisées par la Confédération paysanne, dont évidemment on est plus proche que la FNSEA, mais tout de même ce sont des mesures qui sont limitées, qui ne tiennent pas forcément compte des réalités du capitalisme du XXe et du XXIe siècle, et qui finalement ne portent pas de projet de société, ni même d'une agriculture qui soit radicalement différente de l'agriculture agro-industrielle, puisque là on est d'une certaine façon le frère jumeau, bon le frère cadet, hein, plus proche de nous mais quand même, et d'autre part qui ne peut pas porter non plus un projet de société radicalement différent. Et donc c'est toute cette opposition entre la bonne agriculture paysanne marchande et la mauvaise agriculture agro-industrielle, qui évidemment produit beaucoup plus de ravages sociaux, écologiques et politiques, ça c'est évident. Mais toutefois, on ne peut pas se limiter, ce qu'on pense, c'est qu'on ne peut pas se limiter à cette opposition et à cette critique qui finalement fait l'économie justement d'une critique radicale du capitalisme, qui est précisément l'objet de cette émission, quoi. Alors, pour en revenir du coup à la question de l'émergence de l'agriculture capitaliste en Angleterre, pour qu'on voit un petit peu, justement, je pense que c'est important de voir, quelle est la différence entre l'agriculture paysanne, justement pré-capitaliste, et l'agriculture paysanne capitaliste. Ça, je pense que c'est important, de revenir sur le cas anglais. Donc l'agriculture pré-capitaliste en Angleterre c'est quoi? Alors évidemment, il ne s'agit évidemment pas d'idéaliser les sociétés féodales, qui sont des sociétés de domination personnelle très forte, donc entre d'une part les seigneurs et l'Église, et d'autre part les paysans. Mais c'est simplement l'histoire ne nous fournit pas un modèle, un âge d'or, mais elle nous fournit un point de recul par rapport à aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'était important de revenir un petit peu sur l'agriculture précapitaliste. Alors donc cette agriculture précapitaliste, en Angleterre, et comme d'ailleurs en France, elle prend la forme de paysans qui sont des tenanciers, qui ont des terres, qui leur sont allouées, non pas louées, qu'elles tiennent, c'est des tenures dont ces paysans ont l'usufruit. Et en contrepartie, comme ça s'inscrit dans la domination féodale, en Angleterre comme en France d'ailleurs, des landlords, des seigneurs, ces seigneurs reçoivent tout un tas de redevances féodales en nature, en monnaie et tout ça. Et évidemment, ces redevances en monnaie n'ont pas grand-chose à voir avec le capitalisme, pour tout un tas de raisons, parce que ça ne s'inscrit pas dans un marché global. Enfin ça, on n'a pas trop le temps d'y revenir, mais on est vraiment sur une agriculture paysanne qui se caractérise par une très forte autosubsistance et une vente assez marginale, même si elle augmente tout au long du Moyen-Âge et de la période, disons, du 15e, 16e siècle. C'est plutôt des ventes sur des marchés locaux qui sont isolés des autres marchés, qui ont leurs propres règles. Donc on est dans un cadre où il y a énormément de règles. On n'est pas du tout dans le marché libéral, national du 18e siècle. Et donc on est toujours quand même globalement dans un rapport paysan-seigneur où le seigneur s'approprie par son pouvoir seigneurial une partie de la production agricole des paysans. Et on va basculer, on ne va pas dire comment, mais on va basculer de par une dynamique qui est très spécifique à l'Angleterre, au XVIIe et au XVIIIe siècle, sur une agriculture capitaliste, qui est caractérisée donc à l'inverse d'une agriculture largement d'autosubsistance avec des petits marchés locaux, sur une agriculture commerciale qui vise à produire massivement pour un marché national, qui est relativement libéral, donc où il y a une forte concurrence, où il y a donc une injonction à l'augmentation de la productivité. Donc c'est en Angleterre que il va y avoir, pour la première fois, peut-être pas dans l'histoire, mais une forte augmentation de la productivité agricole sous contrainte du marché. Et on va voir s'instaurer en parallèle des nouvelles relations. À la place du duo seigneur-paysan, il va y avoir un triptyque, donc Marx étudie dans Le Capital, livre 1, qui est le propriétaire capitaliste des terres, qui est anciennement le seigneur, mais avec l'établissement du droit de propriété absolue en 1640 en Angleterre. Il va devenir un propriétaire capitaliste et donc il va louer ses terres à des fermiers capitalistes qui, alors parfois il peut gérer l'exploitation directement, mais dès cette époque, ça c'est pas non plus la majorité des cas. Donc en général, il va louer à des fermiers capitalistes qui sont en général des gros paysans qui avaient quand même déjà pas mal de capitaux. Et donc il y a un marché des locations qui s'organise. Donc c'est vraiment le fermier le plus offrant qui obtient le droit d'exploiter des terres. Ce qui fait que du coup il y a une compétition. Et donc évidemment, les petits paysans qui n'ont pas beaucoup de capitaux et qui donc ne peuvent pas. Voilà, suffisamment investir dans l'exploitation pour que ce soit une exploitation rentable commercialement, et bien évidemment sont impitoyablement éliminés de ce marché de la location. Parce que, corollairement à l'établissement du droit de propriété absolue et de la propriété capitaliste, et bien évidemment, les paysans qui étaient sur les terres seigneuriales, les terres du manoir, comme on dit, et bien ne sont plus. Comme il n'y a plus de manoir et qu'il n'y a qu'une propriété, évidemment, tous ces paysans sont expropriés. Voilà, c'est pour ça qu'on Marx parle de la dépossession, de l'accumulation primitive, dans le dernier chapitre du Capital, le chapitre sur la prétendue accumulation primitive du Capital, livre 1. Et donc ces paysans vont être transformés dans cette troisième catégorie, qui sont les ouvriers agricoles, les salariés agricoles, et qui vont recevoir les ordres de fermiers capitalistes. Ils ne produisent plus pour eux en autosubsistance, mais ils vendent leur force de travail, donc c'est la naissance du travail. voilà, au sens capitaliste. Donc ils vendent leur force de travail, ils produisent des marchandises agricoles, ils doivent les produire de manière relativement compétitive et rentable, et ils vont ensuite, donc ils en sont évidemment dépossédés, c'est le fermier capitaliste qui récupère tout ça et qui les vend sur le marché en essayant d'être compétitif. Il en retire un profit et une partie est rétrocédée au propriétaire capitaliste qui, c'est donc la rente foncière. Donc on est vraiment sur, déjà au XVIIe, XVIIIe siècle en Angleterre, sur un schéma d'agriculture capitaliste. Et comme on va voir, ce schéma donc anglais, qu'on a essayé de résumer du mieux qu'on a pu, est très différent du cadre qu'on trouve en France encore donc à cette période, donc dans les années 1750-1760. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que en France, c'est la paysannerie qui tient les terres et qui va les tenir encore jusque longtemps, jusqu'à la fin du 19e siècle, qui va tenir la majorité des terres, donc 55% à peu près, hein, aux alentours de la Révolution française. Et jusqu'à la Révolution française, c'est une paysannerie qui est peu intégrée, qui n'est pas intégrée à un marché national, qui produit pas principalement des marchandises agricoles. Mais ça, on aura l'occasion de le voir dans une première partie, donc qui sera consacrée à l'agriculture française de l'Ancien Régime jusqu'aux années 1880. Alors, avant d'aborder ces caractéristiques un peu de l'agriculture française d'Ancien Régime pré-capitaliste, on aurait voulu peut-être dresser un peu un tableau général de l'agriculture en France au XVIIIe et au XIXe siècle, par-delà un peu la coupure entre l'agriculture capitaliste et l'agriculture pré-capitaliste, plutôt donc non pas tellement à un niveau économique, entre guillemets, mais à un peu un niveau social et politique. Donc voilà, la grande caractéristique de la France, c'est qu'il y a une persistance de la paysannerie au niveau numérique. En Angleterre, la paysannerie est quasiment éradiquée au milieu du 19e siècle, il n'y en a quasiment plus aucun. Et encore au 18e, c'est vraiment une très faible partie de la population. Alors qu'en France, ça reste quand même une écrasante partie de la population, hein, 80% à la veille de la Révolution française. Et à la fin du 19e siècle, c'est encore plus de la majorité de la population. Et évidemment, ça va avoir des implications politiques. D'abord, la paysannerie au XVIIIe siècle va être une force révolutionnaire anti-féodale, puisqu'elle elle veut de la terre. Et la noblesse et le clergé empêchent, et aussi une petite partie de la bourgeoisie agraire, l'empêchent d'accéder, d'avoir plus de terres. Et donc, ça va être une force vraiment révolutionnaire au XVIIIe siècle. Alors qu'au contraire, au XIXe siècle, comme elle va réussir à se maintenir et même accroître son emprise sur le foncier, sur les propriétés suite à la Révolution française, qui va lui être relativement favorable, elle va plutôt avoir un rôle de garante de l'ordre social. Et c'est ce qui fait que Marx, par exemple, a beaucoup critiqué la paysannerie dans ses ouvrages. Sur le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte et sur les luttes de classe en France notamment, où il fait vraiment de la paysannerie une force contre-révolutionnaire. Et évidemment, dans cette émission, on essaiera de nuancer quand même un peu cette image présente dans le marxisme de la paysannerie comme force contre-révolutionnaire. Mais il est vrai qu'effectivement, elle a joué historiquement un rôle au 19e siècle qui a été qu'elle a fourni la majorité des soldats des armées napoléoniennes. Elle a fourni la majorité des soldats de la Commune, qui a liquidé la Commune de Paris, qui a liquidé les ouvriers de Paris en juin 1848. Donc, il y a une animosité voilà, qu'on retrouve dans le marxisme et dans le mouvement ouvrier français, qui est compréhensible, parce que la paysannerie a été utilisée par les classes capitalistes et par l'État en France comme chair à canon contre le prolétariat lors de ces différentes révoltes au XIXe siècle, en s'appuyant beaucoup sur la propriété. Donc une notion plutôt conservatrice, c'est-à-dire par exemple tiers, vraiment sur une notion de la propriété. Et en fait, la paysannerie donc adhère à cet ordre basé sur la propriété. Et on va voir que ce qui est très différent de l'Angleterre. Où l'Angleterre, l'accent n'était pas tellement mis sur la propriété, mais avant tout, et ça c'est pour des raisons donc économiques, sur la compétition généralisée, la productivité, où là la paysannerie avait beaucoup moins de choses à gagner. Et en fait, ça c'est un de nos cadres d'explication, c'est que l'agriculture française a mis un certain temps à se moderniser et à rentrer véritablement dans vraiment la dynamique explosive du capitalisme et du marché, parce que les différents régimes politiques, jusqu'à la 4e République incluse, avaient intérêt à moderniser de manière limitée seulement l'agriculture, parce que la paysannerie était leur base, alors soit leur base électorale, comme Napoléon III, la 3e République, la 4e République, soit une force armée comme Napoléon Ier ou disons un garant du régime plutôt neutre.
Et puis il faut insister sur le fait que le niveau d'industrialisation de la France n'était pas aussi important que le niveau d'industrialisation anglais, donc il n'y avait pas un tel besoin de, on va dire, de libérer de la main-d'œuvre pour fournir l'industrie. Il y avait même plutôt la crainte inverse pendant longtemps, et même au début du XXe siècle, d'où, on va dire, la mise en avant du modèle de la petit exploitant marchand. Voilà, en se disant que finalement, ça risquait plutôt d'aller concurrencer le marché du travail et les ouvriers, voilà, qui étaient finalement, enfin voilà, le marché était plus ou moins saturé, contrairement à la dynamique exponentielle de l'industrialisation anglaise. Enfin, en tout cas, dans le courant du 19e et début 20e, je pense que c'est un paradigme qui est encore valable, quoi, cet aspect-là.
C'est ça, et c'est ce qui explique justement le dernier aspect marquant, c'est la permanence de l'exploitation familiale tout au long du 19e siècle. Et on verra quand même que jusqu'à aujourd'hui, sous des formes sans cesse changeantes, puisque quand même la modernisation agricole a fait son effet, mais malgré tout, contrairement à l'Angleterre, il y a eu une permanence de l'exploitation familiale qui est restée quand même l'unité de production majoritaire en agriculture, en dehors du grand bassin parisien, où là, depuis longtemps, ça avait pris des formes, voilà, avec des très grandes exploitations et des salariés, même d'ailleurs sous l'Ancien Régime déjà.
Et le nord de la France aussi, plus largement, on va dire.
C'est ça, et le nord de la France, évidemment, mais partout ailleurs, il y a quand même une permanence de l'exploitation familiale, et là, ça fait vraiment une caractéristique très différente par rapport à l'Angleterre. Donc, on voulait poser un peu ces choses-là dans l'introduction. Un peu opposer donc ce modèle anglais et ce modèle français pour expliquer que l'agriculture, contrairement peut-être à l'industrie où le nombre de, disons, de formes historiquement est pas non plus énorme, c'est plus des histoires d'avancée et de retard, des différentiels de productivité. Là, pour le coup, l'agriculture capitaliste, c'est peut-être ça l'enseignement central de cette introduction, c'est que l'agriculture capitaliste peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre une forme presque pure, qui est celle de l'agriculture anglaise quasiment dès l'émergence du capitalisme, avec le triptyque propriétaire capitaliste, fermier capitaliste et salarié agricole. Et elle peut prendre aussi, comme elle l'a pris largement ailleurs, notamment en France, l'Allemagne étant un peu différente, puisque en Allemagne, pour le coup, il y avait des grands propriétaires, hein, les Junkers. On fera pas trop d'excursus vers d'autres pays parce que ça nous demanderait beaucoup plus de temps. Mais enfin, en tout cas, il y a une singularité de l'agriculture capitaliste en France qui continue d'avoir un impact vraiment très fort jusqu'à aujourd'hui et qui explique énormément de choses de l'histoire du capitalisme français depuis le 18e siècle. Et c'est pour ça que on voulait vraiment insister et rentrer un peu dans les détails parce que sinon, on ne comprend pas grand-chose à l'histoire française et à l'histoire de l'agriculture française. Si on a uniquement en tête le schéma de Marx en Angleterre, en se disant l'agriculture capitaliste, c'est un propriétaire capitaliste, un fermier capitaliste et des salariés agricoles. Et du coup, on a l'impression que, en fait, l'agriculture française a été non capitaliste jusqu'aux années 50-60. Et nous, on voudrait s'inscrire contre cette vision-là, et qui est une vision, du coup, qui a tendance à idéaliser l'agriculture paysanne et à ne pas voir qu'elle était déjà prise
Ouais,
dans
paysanne.
l'agriculture capitaliste depuis la Révolution française.
Effectivement, il y a en fait cette figure canonique du propriétaire fermier capitaliste et ses salariés, elle a très peu existé, sauf dans le bassin ou parisien, dans le Nord, comme tu le dis, où elle était assez présente, mais globalement beaucoup moins qu'en Angleterre. Donc c'est une figure finalement qu'on ne trouve pas tant, et donc qui peut laisser penser que l'agriculture n'a pas été capitaliste en France. Et en fait, les formes d'incorporation dans le capitalisme sont distinctes. Ça, c'est ce qu'on va voir aussi, comment ça s'est fait progressivement et donc d'une autre manière, on va dire. Et les tentatives, on va dire, à la veille de la Révolution française, des physiocrates, de faire basculer le modèle agricole français en regardant ce qui se passait, enfin, ce qui s'était passé en Angleterre, en essayant d'impulser la même chose, a été plus ou moins un échec. Enfin, on va peut-être en parler dans la partie suivante sur le basculement en fait de l'ancien régime jusqu'aux années 1880, en regardant comment ça s'est passé, quoi.
Bah voilà, donc on va faire maintenant une première pause musicale avant d'aborder l'histoire de l'agriculture française de l'ancien régime jusqu'aux années 1880.
Les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra.